parlons enfin d'une étude publiée le 23 juillet dernier, une étude qui affirme que le virus Ebola peut rester latent chez des personnes d'apparence guérie.
Oui, le virus Ebola peut devenir latent chez un patient qu'on pensait guéri et ressurgir pour contaminer d'autres personnes, ont montré dans une étude publiée mardi des chercheurs qui appellent à une surveillance étroite de nouveaux cas. C'est ce qui a été constaté chez une Libérienne qui avait survécu à la maladie en 2014. Cette dernière avait une persistance virale ou une récurrence de la maladie et a transmis le virus à son mari et deux de leurs fils un an plus tard selon les chercheurs. Malgré l'absence actuelle des chaînes de transmission active du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, sa persistance pourrait avoir le potentiel d'une épidémie, faute d'être détectée rapidement et contrôlée, a affirmé une signataire de l'étude, Emily Dokubo, du Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC.
Il faut signaler firmement qu'avant cette étude, les scientifiques connaissaient déjà les cas de transmission du virus par le sperme, par les hommes qui semblaient être guéris.
Effectivement, Mamadou, d'ailleurs l'OMS recommande aux survivants d'Ebola de s'abstenir de toute relation sexuelle ou d'adopter des pratiques sexuelles à moindre risque en utilisant correctement et régulièrement des préservatifs jusqu'à ce que le sperme ait donné par deux fois un test négatif. Et lorsque les tests sont négatifs, les survivants peuvent revenir à des pratiques sexuelles normales sans crainte de transmission du virus Ebola.
Merci Firmin.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Comme annoncé au début de ce programme, cette semaine nous parlons de la fin de la 9e épidémie d'Ebola en RDC. C'est le 24 juillet dernier que le ministre de la Santé, Ori Ilunga, a déclaré la fin de l'épidémie. Il aura fallu moins de 3 mois pour maîtriser la situation qui a tout de même provoqué des frayeurs. En effet, à la différence des précédentes épidémies, la 9e a touché 4 endroits différents, y compris un centre urbain en connexion fluviale avec la capitale et les pays voisins. Pour faire le bilan final de l'épidémie, tirer les leçons et parler des actions futures en rapport avec la maladie, notre correspondante à Kinshasa, Bero Matanda, a rencontré le ministre Ori Ilunga.
Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Le gouvernement congolais vient de déclarer la fin de l'épidémie. Sur quoi se base-t-on pour déclarer la fin d'une épidémie?
En fait, on se base sur le règlement sanitaire international qui dit qu'en fait, 42 jours, c'est-à-dire 2 fois 21 jours, la période d'incubation, après la sortie du centre de traitement Ebola du dernier cas guéri, eh bien, on compte 42 jours et 42 jours après, on peut déclarer la fin de l'épidémie à virus Ebola. D'autres calculs se basent en fait sur 42 jours après l'admission du dernier cas confirmé. Donc ce calcul-là nous aurait permis de déclarer la fin de l'épidémie quelques jours plus tôt, mais je crois que d'après le règlement sanitaire international et en accord avec tous les partenaires, on a convenu que ce serait donc le 24 juillet, la fin officielle de l'épidémie, la 9e épidémie à virus Ebola.
Monsieur le ministre, quel est le bilan final de cette épidémie en RDC?
Le bilan final est le suivant. Donc au total, on a eu 54 cas. Parmi ces 54 cas, 38 étaient des cas confirmés par le laboratoire. Et parmi les cas confirmés, il y a eu 17 décès et 21 survivants.
Quelles sont les principales leçons à tirer de cette 9e épidémie?
Je crois que la principale leçon à tirer, c'est surtout en fait de se dire que lorsqu'on a une bonne coordination de tous les acteurs de terrain, de tous les partenaires sous le leadership du gouvernement, on peut réellement arriver à un excellent résultat lorsqu'il faut faire face à des défis comme une épidémie d'Ebola.
Pouvons-nous savoir le rôle qu'a joué le vaccin administré à plus de 3000 patients?
Le vaccin a joué 2 rôles sur le terrain. D'abord, le vaccin a permis de casser rapidement la chaîne de transmission du virus au sein de la communauté. Ça, c'est le premier effet attendu par la technique de double ring vaccination, donc où on vaccinait les personnes qui avaient été en contact avec les patients et les contacts des contacts, ainsi que les professionnels de la santé. Le deuxième effet tout à fait inattendu du vaccin, c'est qu'il a permis de changer le comportement de la communauté face à la maladie. Avant la vaccination, être contact, c'était une cause de stigmatisation, presque une condamnation à mort. Mais avec l'apparition en fait du vaccin, en fait les gens ont changé leur perception de la maladie en se disant qu'il y avait une solution et que le vaccin pouvait être un moyen de prévention, un moyen de protection.
Quelles sont les prochaines étapes après la fin de cette épidémie?
Donc nous avons déclaré hier la fin de la phase de riposte. Mais après la phase de riposte, il y a ce qu'on appelle nous 3 mois de phase donc de stabilisation, de consolidation du système de santé qui avait été donc affecté, impacté par toute la riposte et par l'épidémie dans toute la zone de l'équateur. Et après donc cette phase de stabilisation et de consolidation, à partir de fin septembre, début octobre, on commencera la période donc de résilience.
Y a-t-il un suivi prévu pour les personnes qui sont guéries de cette maladie?
Oui, absolument. Les personnes qui ont été guéries de la maladie et qui se sont regroupées dans l'Association nationale des vainqueurs d'Ebola doivent bénéficier d'un suivi médical, d'un suivi psychologique et un suivi aussi psychosocial. Sur le plan médical, je crois qu'ils doivent bénéficier donc d'un suivi clinique régulier pour voir s'ils ne développent pas d'autres maladies, d'autres symptômes. Je crois qu'ils ont besoin d'un appui psychologique, un appui social et beaucoup aussi donc de conseils, de réconfort. Et alors, il y a aussi un suivi biologique qui doit vraiment être important pour voir comment ils évoluent.
Un message à l'endroit des populations pour peut-être éviter que cette épidémie revienne. Est-ce que vous avez un message pour peut-être sensibiliser la population par rapport à ce genre d'épidémie?
Je crois que le message le plus important au niveau de la population, c'est vraiment d'essayer de bien respecter les mesures d'hygiène. Les mesures d'hygiène des mains, le lavage des mains, ce sont des mesures qui sont très importantes, qui peuvent à la fois les protéger contre une épidémie comme Ebola, protéger aussi les professionnels de la santé, mais c'est aussi des mesures d'hygiène qui peuvent les protéger contre d'autres types de maladies liées à l'eau, telles que le choléra.
Monsieur le ministre, je vous dis merci.
Merci beaucoup aussi à vous.
C'était le docteur Oli Ilunga, ministre de la Santé en RDC. Il était au micro de notre correspondante Béro Matanda.
Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage.
Pour maîtriser l'épidémie, les autorités congolaises sont appuyées sur plusieurs partenaires nationaux et internationaux, parmi lesquels l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. L'OMS, dont l'appui technique et logistique a permis, entre autres, de mener une campagne de vaccination qui a ciblé le personnel soignant, les contacts des malades et leurs contacts, soit 3300 personnes au total. Selon le docteur Michael Ryan, sous-directeur général à l'OMS, le vaccin a été utile, mais c'est surtout la réponse humanitaire rapide qui a permis de limiter la propagation de la maladie. Voici ses explications. La traduction est de Trésor Matondo.
Non, nous ne pouvons pas dire que le vaccin fait la différence. Certes, le vaccin est un outil fantastique dans la lutte contre Ebola. La principale raison pour laquelle nous avons été plus rapides et plus efficaces cette fois est que nous avons lancé une réponse humanitaire très très rapidement. Nous avons enquêté très vite, nous avons réagi agressivement. En plus, nous avons pu vacciner les contacts de telle sorte que le vaccin joue un rôle dans la réponse globale, mais un petit rôle.
Quelles sont les stratégies qui ont permis d'éviter la propagation de la maladie à une grande échelle? Doit-on considérer que le virus a évolué?
Non, il n'y a aucune preuve que le virus ait changé. Il s'est transmis toujours par la même voie. Ce que nous avons réussi à éviter dans ce cas, c'est une amplification à grande échelle de la maladie dans les hôpitaux, dans des funérailles. Dans le cas du fleuve Congo, il y a eu un risque réel que la maladie monte ou descende le fleuve, qui est la route principale vers Kinshasa, vers Brazzaville, la République centrafricaine et d'autres parties du Congo. Notre stratégie a été en premier d'éduquer les gens pour qu'ils comprennent que s'ils ont la fièvre, ils doivent aller voir un médecin. Deuxièmement, il a fallu des installations pour un contrôle ciblé et stratégique dans les ports à forte densité des voyageurs. Et puis, il a été important d'avoir dans des endroits comme Kinshasa un niveau d'alerte élevé dans les hôpitaux et les centres de santé pour que les gens arrivant d'endroits comme Mbandaka sur le fleuve et ayant de la fièvre ou des symptômes inhabituels soient immédiatement isolés. Nous avions donc un système en place, mais le système n'était pas basé sur la fermeture du fleuve.
Keep the chains of transmission very small.
C'était le Dr Michael Ryan, sous-directeur général à l'OMS. L'épidémie est certes terminée, mais l'on pense déjà à la phase suivante. Un plan stratégique de consolidation et de stabilisation du système de santé a été validé pour la période d'août à octobre 2018. Il s'ensuivra un plan de résilience. En attendant la mise en œuvre de ce plan, à quoi peut-on s'attendre comme problème et défi? C'est la question que nous avons posée au Dr Billy Sivaira. Il est chef de mission de l'ONG Alliance for International Medical Action en Guinée. Il a suivi de près la phase post-épidémie en Guinée depuis 2016. Nous l'avons joint depuis Conakry, la capitale guinéenne.
Bon, les problèmes majeurs qui ont été remarqués étaient essentiellement le suivi des syndromes post-Ebola. Donc les patients guéris, certains patients guéris présentaient des séquelles physiques ou des problèmes de santé mentale. À titre d'exemple, l'ONG Alim a eu à suivre une centaine de survivants dans la région forestière, dont près de 67% présentaient des problèmes de santé mentale et 30% nécessitaient une prise en charge adéquate, ça signifie une psychothérapie médicamenteuse. Les autres problèmes qui ont été aussi notifiés, c'était les problèmes des stigmatisations et des discriminations des victimes. Surtout dans les milieux ruraux, certaines victimes étaient amenées à déménager, à changer de ville, pour pouvoir payer des rançons pour pouvoir réintégrer des communautés parce qu'il fallait respecter certaines pratiques coutumières. Mmh. Ensuite aussi, bon, le système de santé est déstructuré suite à l'épidémie d'Ebola et de façon générale, le système de santé ici en Guinée est assez faible. Et donc, il y a quand même des problèmes des qualités d'offre de soins, pas forcément pour les patients guéris, mais aussi la population générale, des questions de biosécurité et des problèmes de diagnostic qui sont limités pour d'éventuelles pathologies où par moment il faudrait mener les échantillons en dehors de la Guinée pour pouvoir confirmer la prise en charge des cas. Et c'est là bien qu'il y avait quand même certains projets sur la Guinée pour pouvoir assurer un suivi des patients Ebola. Donc voilà un peu résumé les principaux problèmes rencontrés en post-Ebola et du fait qu'on la recherche avance, mais on ne connaît pas encore tout sur Ebola. Donc, voilà, notamment, il y a la notion de l'intermittence de la positivité du sperme chez certains patients guéris Ebola, qui étaient déjà déclarés guéris, ou certains au bout des 14, voire 18 mois, dans les pays de la sous-région. Et même ici, on a retrouvé quand même des traces des virus d'Ebola dans leur sperme. Mais ce qui ne signifie pas forcément une possibilité de contamination. Donc la recherche a encore aussi beaucoup d'éléments à pouvoir clarifier auprès des communautés pour avoir une meilleure connaissance de cette maladie.
Ouais. Et comment avez-vous procédé pour résoudre ces problèmes que vous venez de soulever? Et quelles leçons peut-on tirer de cette expérience pour la phase post-épidémie en RDC?
En tout cas, on a capitalisé l'expérience de l'Afrique de l'Ouest et particulièrement celle qu'on a eue en Guinée. Vu qu'on avait assuré une prise en charge d'une centaine de personnes, on avait un centre de traitement sur la région forestière, l'ONG Alima. Donc, à titre d'exemple, nous avions utilisé certaines molécules thérapeutiques pour la prise en charge des patients. Donc, à ces jours, il y a autour de 4 molécules en cours d'expérimentation qui ont été utilisées, dont certaines ont été utilisées ici en Guinée, notamment les favipiravir ou les Gilead. Et en RDC, là, il y a eu aussi les ZMAP et aussi une molécule congolaise de l'UNRB qu'on appelle les MAP-114. Donc, c'est autant des molécules qui ont été retenues pour l'actuelle épidémie en RDC. Donc, ce qui fait que les gens ne sont pas allés, les gens sont allés quand même avec de la matière, ça signifie des molécules pour assurer une prise en charge des patients. Il y avait aussi les vaccins. En Guinée, on est opérateur terrain de mise en œuvre d'un grand essai vaccinal privat où on fait un essai autour de 2 vaccins, un des Merck et un autre de Johnson & Johnson sur 5 stratégies vaccinales différentes. Donc, sur la Guinée, il y avait quand même des avancées. Ces vaccins MERS-CoV-2 qui a été aussi utilisé en RDC par l'OMS. En plus de ça, on a d'emblée intégré les aspects de la prise en charge psychosociale et santé mentale, suite à notre expérience guinéenne, où on avait des psychologues, mais aussi des anthropologues intégrés au sein des équipes médicales, logistiques et autres qu'on avait sur la Guinée. Particulièrement sur la RDC, là, vu que c'était en région forestière où il y avait des pygmées, on avait un anthropologue, pygmologue, qui fait partie aussi des équipes, ce qui permet une meilleure compréhension de la maladie au-delà de l'offre de soins, mais aussi de pouvoir sensibiliser et mieux comprendre la communauté parce que c'est elle qui est au centre de la réponse. En Guinée aussi, il y a des avancées importantes en termes de surveillance épidémiologique et des renforcements des capacités des équipes. Donc il y a beaucoup de personnels qui ont déjà été formés en Guinée qui ont assuré la prise en charge des malades. Bon, la RDC a sollicité un appui au ministère de la Santé guinéen qui a envoyé des ressources humaines nationales comme des autres organisations de l'OMS et même d'Alima qui sont prêtées main forte aux équipes de la RDC, vu qu'on a quand même une expérience assez avancée en Afrique de l'Ouest sur ces questions d'Ebola. C'est là lié à l'impact qu'a eu cette maladie ici, bien que la RDC était à sa 9e épidémie d'Ebola. Mais en Afrique de l'Ouest, il n'y a eu qu'une seule épidémie, mais si on calcule le nombre de décès, le nombre des cas qu'il y a eu et Ebola qui a atteint les capitales et les grandes villes, donc ça fait qu'il y a des avancées ici en termes de recherche, en termes de prise en charge, en termes de surveillance épidémiologique. Donc on peut dire que la RDC a bénéficié vraiment de l'expérience en Afrique de l'Ouest et particulièrement de l'expérience guinéenne pour répondre à la récente épidémie d'Ebola.
Une dernière question, docteur. La RDC a justement maîtrisé et mis un terme assez rapidement à l'épidémie et le bilan a été moins lourd comparé à l'épidémie de l'Afrique de l'Ouest. En quoi cela peut inspirer d'autres pays pour des épidémies futures?
Premièrement, je pense qu'il y a eu une appropriation de la lutte avec un leadership, en tout cas de haut niveau, auprès des autorités nationales congolaises. On a carrément le ministre de la Santé qui a déplacé son Kigé en Mbandaka et dans la région du Tipo. Il lui-même était physiquement présent toutes les semaines sur les terrains. Donc, c'est vraiment un acteur opérationnel. Et on a vu même les équipes de l'OMS en 3 semaines avoir les visites des hauts niveaux de la direction générale de l'OMS ou d'autres institutions des Nations Unies sur le terrain. Et aussi des ONG. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de retard entre la déclaration de l'épidémie et les interventions des acteurs sur le terrain rapidement. L'OMS a pu mobiliser des ressources et les gouvernements de la RDC et d'autres acteurs qui étaient ONG humanitaires qui étaient déjà présents quelques jours après la déclaration de l'épidémie. Donc, on pense qu'en termes de coordination, c'est vraiment ce qui a fait que les choses avancent très vite. Deuxième élément, c'est la région. Ce que je disais avant, les gens ne sont pas arrivés main vide, donc en arrivant, il y avait des vaccins qui étaient déjà, même s'ils étaient expérimentaux, il y avait des molécules déjà validées, les 4 molécules que j'ai citées. Nous sommes aussi arrivés à Lima avec un outil qui permet de prendre en charge les patients différemment, ce qu'on appelle les chambres biosécurisées. Donc c'était une première utilisation en situation réelle en RDC pendant cette épidémie d'Ebola. Donc ce sont des chambres biosécurisées avec une pression négative qui permettent au personnel de santé de correctement prendre en charge les patients. Ce qu'on sait très bien, Ebola, ce qui est important, c'est aussi la réanimation du malade. Donc le fait d'être tout le temps dans des tenues dites des cosmonautes ne permettent pas au personnel de santé d'assurer correctement la prise en charge des patients, notamment la réanimation, parce qu'il faut s'échanger toutes les 30 minutes, pour ce qui explose le nombre des ressources humaines. À titre d'exemple, sur un centre de traitement de 10 patients qu'on avait en Guinée pendant l'épidémie d'Ebola, il fallait au moins 200 staff. Mais là, avec ces chambres biosécurisées qui sont en paroi transparente et qui sont déployable facilement au plus proche du foyer épidémique. Et en pression négative, on arrive à utiliser que 30 staff pour assurer la prise en charge des 10 patients. Donc du coup, les coûts se réduisent très très sensiblement et ils sont en capacité d'être réutilisés autour des 10 fois sur des épidémies dans des foyers différents. Donc ça, ça a été quand même une nouveauté qui, en termes des moyens mis à disposition des personnels de santé pour les traitements. La vaccination aussi a permis de contenir très rapidement la propagation de la maladie, notamment dans Mbandaka. Je ne sais pas si c'est l'avantage ou la particularité de la RBC, c'est que ce sont des épidémies qui se vivent surtout en région forestière. Et du fait qu'il y a des problèmes d'accès dans cette région forestière, les routes sont délabrées et donc les populations ne circulent pas beaucoup dans cette forêt, ce qui est différent d'ici en Afrique de l'Ouest où les populations quittent facilement d'une capitale ou d'une ville à une autre et de cette façon, ils peuvent aussi circuler avec la maladie. Donc la région forestière a aussi permis tant soit peu de pouvoir circonscrire cette propagation de la maladie, mais en tout cas les acteurs étaient beaucoup plus présents avec des moyens techniques appropriés pour pouvoir contrôler rapidement cette épidémie.
Nous remercions les docteurs Michael Ryan et Billy Sibaera pour leur témoignage.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Armand Nguenkap, a répondu à vos questions. Le docteur Nguenkap est médecin urgentiste et praticien au Centre hospitalier universitaire de Soissons, c'est en France.
Bonjour docteur, je suis héritier Lusimba depuis la ville de Benia, province du Nord Kivu. Depuis que je suis né, voici 30 ans, à chaque fois que je tombe malade, l'on me parle de la fièvre typhoïde. Ce qui m'étonne encore, j'essaie de suivre les 5 moments clés du lavage des mains comme recommandé, mais sans succès. Que peux-je faire encore ou carrément ne me faut-il pas croire au médecin?
Lusimba, je voudrais savoir quelles mesures de prévention supplémentaires en plus du lavage des mains il peut adopter pour éviter la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde, encore appelée maladie des mains sales, est une maladie infectieuse dont la contamination se fait essentiellement par voie orale. En plus du lavage des mains qui est indispensable, à savoir bien se laver les mains après sa toilette, bien se laver les mains avant de toucher les aliments et surtout bien se laver les mains avant de passer à table, il faut, pour éviter la fièvre typhoïde, absolument veiller à boire de l'eau potable ou de l'eau bouillie lorsqu'on est surtout en zone à risque. Comme autre mesure supplémentaire que je peux conseiller à Lusimba, c'est se faire vacciner. Se faire vacciner notamment s'il réside en zone à risque. Le vaccin antityphoïdique va lui conférer, grâce à une seule injection, une protection immunitaire contre la fièvre typhoïde d'environ 3 ans. Voici ce que je pouvais répondre à Lusimba, qui appelle depuis Béni dans le Nord Kivu.
Et si vous aussi, vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous vous informons également qu'il existe une version télé de ce programme. Elle est diffusée tous les mercredis sur la page Facebook de VOA Afrique et sur nos télévisions partenaires. Vous pouvez aussi regarder et télécharger toutes nos émissions sur le site web de VOA Afrique, voafrique.com.
C'est la fin de Votre Santé, Votre Avenir. Cette édition était consacrée au bilan et perspectives de la 9e épidémie d'Ebola en RDC. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Oli Ilunga, ministre de la Santé de la République démocratique du Congo. Avec lui, nous avons dressé le bilan de la riposte, les leçons tirées de l'épidémie et les défis qui attendent le pays dans la phase post-épidémie. Nous avons aussi écouté le docteur Michael Ryan, sous-directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'un des partenaires du gouvernement congolais dans la lutte contre l'épidémie. Il nous a parlé des moyens qui ont permis de maîtriser l'épidémie en moins de 3 mois. Enfin, nous avons écouté le docteur Billy Sivaira, chef de mission de l'ONG Alliance for International Medical Action en Guinée. À partir de l'expérience vécue dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, il nous a expliqué les enjeux de la phase post-épidémie. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission.
Merci également à Firmin Koyaweda qui était là avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Péro Matanda à Kinshasa et Erika Soumissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Tchèque Thierro et de Keith Holmes qui était à la console. À la présentation, c'était Rosine Munezero et j'étais en compagnie de
Mohamedou Oumfa.
Continuez à écouter VO Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé c'est votre avenir. À très bientôt.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.